Les paysans, deuxième partie, chapitre 5. La victoire sans combat. Les craintes de Madame Michaud étaient en effet de la seconde vue que donne la passion vraie. Exclusivement occupée d'un seul être, l'âme finit par embrasser le monde moral qui l'entoure. Elle y voit clair. Dans son amour, une femme éprouve les pressentiments qui l'agitent plus tard dans la maternité. Pendant que la pauvre jeune femme se laissait aller à écouter ces voix confuses qui viennent à travers des espaces inconnus, il se passait en effet dans le cabaret du grand hiver une scène où l'existence de son mari était menacée. Vers 5 heures du matin, les premiers levés dans la campagne avaient vu passer la gendarmerie de Soulanges qui se dirigeait vers Couches. Cette nouvelle circula rapidement, et ceux que cette question intéressait furent assez surpris d'apprendre, par ceux du Haut-Pays, qu'un détachement de gendarmerie, commandé par le lieutenant de la ville aux Failles, avait passé par la forêt des Aigues. Comme c'était un lundi, il y avait déjà des raisons pour que les ouvriers allassent au cabaret. Mais c'était la veille de l'anniversaire de la rentrée des Bourbons, et quoique les habitués du repère des Tonsards n'eussent pas besoin de cette auguste cause, comme on disait alors, pour justifier leur présence au grand hiver, ils ne laissaient pas de s'en prévaloir très haut dès qu'ils croyaient avoir aperçu l'ombre d'un fonctionnaire quelconque. Il se trouva là Vaudoyer, Tonsard et sa famille, Gaudin qui en faisait en quelque sorte partie, et un vieil ouvrier vigneron nommé Laroche. Cet homme vivait au jour le jour. Il était un des délinquants fournis par Blangy dans l'espèce de conscription que l'on avait inventée pour dégoûter le général de sa manie de procès-verbaux. Blangy avait donné 3 autres hommes, 12 femmes, 8 filles et 5 garçons, dont les maris et les pères devaient répondre, et qui étaient dans une entière indigence. Mais aussi c'étaient les seuls qui ne possédaient rien. L'année 1823 avait enrichi les vignerons, et 1826 devait, par la grande quantité du vin, leur jeter encore beaucoup d'argent. Les travaux exécutés par le général avaient également répandu de l'argent dans les 3 communes qui environnaient ses propriétés, et l'on avait eu de la peine à trouver à Blangy, à Couches et à Cerneux 120 prolétaires. On n'y était parvenu qu'en prenant les vieilles femmes, les mères et les grands-mères de ceux qui possédaient quelque chose, mais qui n'avaient rien à elles, comme la mère de Tonsard. Ce Laroche, le vieil ouvrier délinquant, ne valait absolument rien. Il n'avait pas, comme Tonsard, un sang chaud et vicieux. Il était animé d'une haine sourde et froide. Il travaillait en silence, il gardait un air farouche. Le travail lui était insupportable, et il ne pouvait vivre qu'en travaillant. Ses traits étaient durs, leur expression repoussante. Malgré ses 60 ans, il ne manquait pas de force, mais son dos avait faibli, il était voûté, il se voyait sans avenir, sans un bout de champ à lui, et il enviait ce qui possédait de la terre. Aussi, dans la forêt des Aigues, était-il sans pitié. Il y faisait avec plaisir des dévastations inutiles. « Les laisserons-nous emmener ?» disait Laroche. « Après Couches, on viendra à Blangy. « Je suis en récidive. J'en ai pour 3 mois de prison. »«
Et que faire contre la gendarmerie, vieille ivrogne ?» lui dit Vaudoyer.
« Tiens, est-ce qu'avec nos faux, nous ne couperons pas bien les jambes à leurs chevaux? Ils seront bientôt par terre. Leurs fusils ne sont pas chargés. Et quand ils se verront 1 contre 10, il faudra bien qu'ils déguerpissent.
Si les 3 villages se soulevaient et qu'on tuât 2 ou 3 gendarmes, « guillotinerait-on tout le monde? Faudrait bien plier comme au fond de la Bourgogne, où pour une affaire semblable on a envoyé un régiment. Ah bah, le régiment s'en est allé. Les paysans ont continué d'aller au bois où ils allaient depuis des années, comme ici. »«
Tuer pour tuer, » dit Vaudoyer. Il vaudrait mieux n'en tuer qu'un, mais là, sans danger, et de manière à dégoûter tous les arminacs du pays.
« Lequel de ces brigands ?» demanda la Roche.
« Michaud, » dit Courtecuisse. « Il a raison, vaudoyer, il a grandement raison. Vous verrez que quand un garde aura été mis à l'ombre, on n'en trouvera pas facilement d'autres qui resteront au soleil à surveiller. Ils y sont le jour, mais c'est qu'ils y sont encore la nuit. C'est des démons, quoi !»«
Partout où vous allez !» dit la vieille Tonsard, qui avait 78 ans et qui montra sa figure de parchemin, percée de 1000 trous et de 2 yeux verts, ornée de ses cheveux d'un blanc sale qui sortaient par mèches de dessous un mouchoir rouge.
« Partout où vous allez, vous les trouvez, et ils vous arrêtent. Ils regardent votre fagot, et s'il y avait une seule branche coupée, une seule baguette de méchant coudrier, ils prendraient le fagot et vous feraient le verbal. » Ils l'ont bien dit, ah, les gueux. Il n'y a pas à les attraper, et s'ils se défient de vous, ils vous ont bientôt fait délier votre bois. Ils sont là, 3 chiens qui ne valent pas 2 liards. On les tuerait, ça ne ruinerait pas la France, allez.
Le petit Vatel n'est pas encore si méchant, dit madame Tonsard, la belle-fille.
Lui, dit la Roche, il fait sa besogne comme les autres. « Histoire de rire, c'est bon, il rit avec vous. Vous n'en êtes pas mieux avec lui pour cela. C'est le plus malicieux des 3. C'est un sans-cœur pour le pauvre peuple, comme Monsieur Michaud. »«
Il a une jolie femme tout de même, Monsieur Michaud, » dit Nicolas Tonsard.
« Elle est pleine, » dit la vieille mère. « Mais si ça continue, on fera un drôle de baptême à son petit quand elle vêlera. »
« Oh, tous ces arminacs de Parisiens !» dit Marie Tonsard. « Il est impossible de rire avec eux. Et si cela arrivait, ils vous feraient un verbal sans plus se soucier de vous que s'ils n'avaient pas ri. »«
Tu as donc essayé de les entortiller ?» dit Courtecuisse.
« Pardi !»«
Eh bien, » dit Tonsard d'un air déterminé, « c'est des hommes comme les autres, on peut en venir à bout. »«
Ma foi, non. » reprit Marie en continuant sa pensée. « Il ne rit point. Je ne sais pas ce qu'on leur donne, car après tout, le crâne du pavillon, il est marié. Mais Vatel, Gaillard et Stengel ne le sont pas. Ils n'ont personne dans le pays. Il n'y a pas une femme qui voudrait d'eux. »
Nous allons voir comment les choses vont se passer à la moisson et à la vendange, dit Tonsard.
« Ils n'empêcheront pas de glaner, dit la vieille.
Mais je ne sais trop, répondit la Bru Tonsard. Leur Groison dit comme ça que monsieur le maire va publier un ban, où il sera dit que personne ne pourra glaner sans un certificat d'indigence.
Et qui est-ce qu'il donnera?
Ce sera lui. Il n'en donnera pas beaucoup. Il publiera aussi des défenses d'entrer dans les champs avant que la dernière gerbe ne soit dans la charrette.
Ah, mais c'est donc la grêle que ce cuirassier !»
cria Tonsard hors de lui. « Je ne le sais que d'hier, » répondit sa femme, « que j'ai offert un petit verre à Groison pour en tirer quelques nouvelles. »
« En voilà un d'heureux, » dit Vaudoyer. « On lui a bâti une maison, on lui a donné une bonne femme, il a des rentes, il est mis comme un roi. Moi, j'ai été 20 ans garde champêtre, je n'y ai gagné que des rhumes. »
« Oui, il est heureux, » dit Gaudin, « et il a du bien. »«
Nous restons là comme des imbéciles que nous sommes, » s'écria Vaudoyer. « Allons donc au moins voir comment ça se passe à couche. Ils ne sont pas plus endurants que nous autres. »
« Allons, » dit la Roche qui ne se tenait pas trop ferme sur ses jambes. « Si je n'en extermine pas un ou deux, je veux perdre mon nom. »«
Toi, » dit Tonsard, « tu laisserais bien emmener toute la commune. » Mais moi, si l'on touchait à la vieille, voilà mon fusil. Il ne manquerait pas son coup.
Eh bien, dit la Roche à Vaudoyer, si l'on emmène un des couches, il y aura un gendarme par terre.
Il l'a dit, le père Laroche, s'écria Courtecuisse.
Il l'a dit, reprit Vaudoyer, mais il ne l'a pas fait, et il ne le fera pas.
À quoi ça te servirait-il si tu veux te faire rosser? Tuer pour tuer,
Il vaut mieux tuer Michaud. »
Pendant cette scène, Catherine Tonsard était en sentinelle à la porte du cabaret, afin d'être en mesure de prévenir les buveurs de se taire s'il passait quelqu'un. Malgré leurs jambes avinées, ils s'élancèrent plutôt qu'ils ne sortirent du cabaret, et leur ardeur belliqueuse les dirigea vers Couches en suivant la route qui, pendant un quart de lieue, longeait les murs des Aigues. Couches était un vrai village de Bourgogne, à une seule rue dans laquelle passait le grand chemin. Les maisons étaient construites les unes en briques, les autres en pisées, mais elles étaient d'un aspect misérable. En y arrivant par la route départementale de la ville aux Failles, on prenait le village à revers, et il faisait alors assez d'effet. Entre la grande route et les bois de Ronquerolles, qui continuaient ceux des Aigues et couronnaient les hauteurs, coulait une petite rivière, et plusieurs maisons assez bien groupées animaient le paysage. L'église et le presbytère formaient une fabrique séparée et donnaient un point de vue à la grille du parc des Aigues qui venait jusque-là. Devant l'église se trouvait une place entourée d'arbres où les conspirateurs du grand hiver aperçurent la gendarmerie, et ils doublèrent alors leurs pas précipités. En ce moment, trois hommes d'à cheval sortirent par la grille de Couches, et les paysans reconnurent le général et son domestique avec Michaud, le garde général, qui s'élancèrent au galop vers la place. Tonsard et les siens y arrivèrent quelques minutes après eux. Les délinquants, hommes et femmes, n'avaient fait aucune résistance. Ils étaient tous entre les cinq gendarmes de Soulanges et les 15 autres venus de la ville aux Failles. Tout le village était rassemblé là. Les enfants, les pères et les mères des prisonniers allaient et venaient et leur apportaient ce dont ils avaient besoin pour passer le temps de leur prison. C'était un coup d'œil assez curieux que celui de cette population campagnarde, exaspérée, mais à peu près silencieuse, comme si elle avait pris un parti. Les vieilles et les trois jeunes femmes étaient les seules qui parlassent. Les enfants, les petites filles, étaient juchés sur des bois et des tas de pierres pour mieux voir. Ils ont bien pris leur temps, ces hussards de la guillotine. Ils sont venus un jour de fête.
Ah, ça! Vous laissez donc emmener comme ça votre homme? Qu'allez-vous donc devenir pendant 3 mois? Les meilleurs de l'année, où les journées sont bien payées.
C'est eux qui sont les voleurs, répondit la femme en regardant les gendarmes d'un air menaçant.
« Qu'avez-vous donc, la vieille, à loucher comme ça ?»
dit le maréchal des logis.
« Sachez que votre affaire ne sera pas longue à bâcler, si vous vous permettez de nous injurier. »«
Je n'ai rien dit !»
s'empressa de dire la femme d'un air humble et piteux.
« J'ai entendu tout à l'heure un propos dont je pourrais vous faire repentir. »«
Allons, mes enfants, du calme !» dit le maire de Couches, qui était le maître de poste. « Que diable! Ces hommes, on les commande, il faut bien qu'ils obéissent. »«
C'est vrai, c'est le bourgeois des Aigues qui fait tout cela. »«
Mais patience !»
En ce moment, le général déboucha sur la place, et son arrivée excita quelques murmures, dont il s'inquiéta fort peu. Il alla droit au lieutenant de la gendarmerie de la ville aux Failles, et après lui avoir dit quelques mots et lui avoir remis un papier, l'officier se tourna vers ses hommes et leur dit
« Laissez aller vos prisonniers. Le général a obtenu leur grâce du roi. »
En ce moment, le général Montcornet causait avec le maire de Couches. Mais, après quelques moments de conversation échangée à voix basse, celui-ci, s'adressant au délinquant qui devait coucher en prison et qui se trouvait tout étonné d'être libre, leur dit
« Mes amis, remerciez monsieur le comte. C'est lui à qui vous devez la remise de vos condamnations. Il a demandé votre grâce à Paris et l'a obtenue pour l'anniversaire de la rentrée du roi. J'espère qu'à l'avenir, vous vous conduirez mieux envers un homme qui se conduit si bien envers vous et que vous respecterez dorénavant ses propriétés. Vive le roi !»
Et les paysans crièrent « Vive le roi !» avec enthousiasme pour ne pas crier « Vive le comte de Montcornet !»
Cette scène avait été politiquement méditée par le général, d'accord avec le préfet et le procureur général, car on avait voulu, tout en montrant de la fermeté pour stimuler les autorités locales et frapper l'esprit des campagnes, user de douceur tant ces questions paraissaient délicates. En effet, la résistance, au cas où elle aurait eu lieu, jetait le gouvernement dans de grands embarras. Comme l'avait dit Laroche, on ne pouvait pas guillotiner toute une commune. Le général avait invité à déjeuner le maire de Couche, le lieutenant et le maréchal des logis. Les conspirateurs de Blangy restèrent dans le cabaret de Couche, où les délinquants délivrés employaient à boire l'argent qu'ils emportaient pour vivre en prison. Et les gens de Blangy furent naturellement de la noce, car les gens de la campagne appliquent le mot de « noce » à toutes les réjouissances. Boire, se quereller, se battre, manger et rentrer ivre et malade, c'est faire la noce. Sorti par la grille de Couche, le comte ramena ses trois convives par la forêt afin de leur montrer les traces des dégâts et leur faire juger l'importance de cette question. Au moment où, vers midi, Rigoux rentrait à Blangy, le comte, la comtesse, Émile Blondet, le lieutenant de gendarmerie, le maréchal des logis et le maire de Couche achevaient de déjeuner dans cette salle splendide et fastueuse où le luxe de Bourret avait passé, et qui avait été décrite par Blondet dans sa lettre à Nathan. « Ce serait bien dommage d'abandonner un pareil séjour, » dit le lieutenant de gendarmerie, qui n'était jamais venu aux Aigues, à qui l'on avait tout montré, et qui, en lorgnant à travers un verre de champagne, avait remarqué l'admirable entrain des nymphes nues qui soutenaient le voile du plafond. « Aussi, nous y défendrons-nous jusqu'à la mort, » dit Blondet. « Si je dis ce mot, » reprit le lieutenant en regardant son maréchal des logis, comme pour lui recommander le silence, « c'est que les ennemis du général ne sont pas tous dans la campagne. » Le brave lieutenant était attendri par l'éclat du déjeuner, par ce service magnifique, par ce luxe impérial qui remplaçait le luxe de la fille d'opéra. Et Blondet avait poussé des paroles spirituelles qui le stimulaient autant que les santé chevaleresques qu'il avait vidées. « Comment puis-je avoir des ennemis ?» dit le général étonné. « Lui si bon !» ajouta la comtesse. « Il s'est mal quitté avec notre mère, monsieur Gobertin, et pour demeurer tranquille, il devrait se réconcilier avec lui. »«
Avec lui ?» s'écria le comte.
« Vous ne savez donc pas que c'est mon ancien intendant, un fripon ?»«
Ce n'est plus un fripon, » dit le lieutenant. « C'est le maire de la ville aux failles. »«
Il a de l'esprit, notre lieutenant, » dit Blondet. « Il est clair qu'un maire est essentiellement honnête homme. »
Le lieutenant, voyant, d'après le mot du comte, qu'il était impossible de l'éclairer, ne continua plus la conversation sur ce sujet.
Les paysans, deuxième partie, chapitre 6. La forêt et la moisson. La scène de Couche avait produit un bon effet, et de leur côté, les fidèles gardes du comte veillaient à ce qu'on n'emportât que le bois mort de la forêt des Aigues. Mais depuis 20 ans, cette forêt avait été si bien exploitée par les habitants qu'il n'y avait plus que du bois vivant, qu'ils s'occupaient à faire mourir pour l'hiver par des procédés fort simples et qui ne pouvaient être découverts que longtemps après. Tonsard envoyait sa mère dans la forêt. Le garde la voyait entrer, il savait par où elle devait sortir, et il la guettait pour voir le fagot. Il la trouvait chargée, en effet, de brindilles sèches, de branches tombées. mais elle se plaignait d'avoir à courir bien loin pour obtenir un misérable fagot. Elle avait été dans les fourrés plus épais, elle avait dégagé la tige d'un jeune arbre et en avait enlevé l'écorce à l'endroit où elle sortait du tronc, tout autour en anneaux. Puis elle avait remis la mousse, les feuilles, tout en état. Il était impossible de découvrir cette incision annulaire faite, non pas à la serpe, mais par une déchirure qui ressemblait à celle produite par ces animaux rongeurs et destructeurs, nommés, selon les pays, des thons, des turcs, des vers blancs, etc., et qui sont le premier état du hanneton. Ce ver est friand des écorces d'arbres. Il se loge entre l'écorce et l'aubier et mange en tournant. Si l'arbre est assez gros pour qu'il ait passé à sa seconde métamorphose, à sa larve, où il reste endormi jusqu'au jour de sa résurrection, l'arbre est sauvé. Car tant qu'il reste à la sève un endroit couvert d'écorce dans l'arbre, l'arbre croîtra. Pour savoir à quel point l'entomologie se lie à l'agriculture, à l'horticulture et à tous les produits de la terre, il suffit d'expliquer que les grands naturalistes, comme Latreille, le comte de Jean, Boisgelin de Paris, Genet de Turin, etc., sont arrivés à trouver 150 000 familles d'insectes visibles, que les coléoptères, dont la monographie est publiée par M. de Jean, y sont pour 27 000 espèces, et que, malgré les plus ardentes recherches des entomologistes de tous les pays, on ne connaît pas les triples transformations qui distinguent tout insecte de 500 espèces. Qu'enfin, non seulement toute plante a son insecte particulier, mais tout produit terrestre, quelque détourné qu'il soit par l'industrie humaine. Ainsi, le chanvre, le lin, après avoir servi à pendre, à couvrir les hommes et avoir roulé sur le dos d'une armée, devient papier à écrire. Et ceux qui écrivent ou lisent beaucoup sont familiarisés avec les mœurs d'un insecte nommé le pou du papier, d'une allure et d'une tournure merveilleuses. Il subit ces transformations inconnues dans une rame de papier blanc soigneusement gardée. Et vous le voyez courir, sautiller, dans sa magnifique robe luisante comme du talc ou du spasse. C'est une ablette qui vole. Le turc est le désespoir du propriétaire. Il échappe sous terre à la circulaire administrative qui ne peut en ordonner les vêpres siciliennes que quand il est devenu hanneton. Et si les populations savaient de quel désastre elles sont menacées, au cas où elles n'extermineraient pas les hannetons et les chenilles, elles obéiraient un peu mieux aux injonctions préfectorales. La Hollande a manqué périr. Ses digues ont été rongées par les tarés. Et la science ignore à quel insecte aboutit le taré, comme elle ignore les métamorphoses antérieures de la cochenille. L'ergot du seigle est vraisemblablement une peuplade d'insectes où le génie de Raspail n'a encore découvert qu'un léger mouvement. Ainsi, en attendant la moisson et le glanage, une cinquantaine de vieilles femmes imitèrent le travail du turc au pied de 500 ou 600 arbres qui devaient être des cadavres au printemps, ne pas se couvrir de feuilles, et ils étaient choisis au milieu des endroits les moins accessibles, en sorte que le branchage leur appartiendrait. Ce secret, qui l'avait donné? Personne. Courtecuisse s'était plaint au cabaret de Tonsard d'avoir surpris dans son jardin un orme à pâlir. Cet orme commençait une maladie. Il avait soupçonné le turc. Car lui, Courtecuisse, il connaissait bien les turcs. Et voilà comment s'y prenaient les turcs. Et quand un turc était au pied d'un arbre, l'arbre était perdu. Et il imita le travail du turc. Les vieilles femmes se mirent à cette œuvre de destruction avec une habileté de fée, et y furent poussées par les mesures désespérantes que prit le maire de Blangy, et qu'il fut ordonné de prendre au maire des communes adjacentes. Les gardes champêtres tambourinèrent une proclamation où il était dit que personne ne serait admis à glaner et alboter sans un certificat d'indigence donné par les maires de chaque commune, et dont le modèle fut envoyé par le préfet au sous-préfet, et par celui-ci à chaque maire. les grands propriétaires du département admiraient beaucoup la conduite du général Montcornet. Et le préfet, dans ses salons, disait « Si, au lieu de demeurer à Paris, les sommités sociales venaient sur leurs terres et s'entendaient, on finirait par obtenir quelques résultats heureux. Car ces mesures-là doivent se prendre partout, être appliquées avec ensemble et modifiées par des bienfaits, par une philanthropie éclairée, comme fait le général Montcornet. » En effet, le général et sa femme essayaient de la bienfaisance. Ils l'avaient raisonné. Ils voulaient démontrer par des résultats à ceux qui les pillaient qu'ils gagneraient davantage en s'occupant à des travaux licites. Ils donnaient du chanvre à filer et payaient la façon. La comtesse faisait ensuite fabriquer de la toile avec ce fil pour faire des torchons, des tabliers, des grosses serviettes pour la cuisine et des chemises pour les indigents. Le comte entreprenait des améliorations qui voulaient des ouvriers et n'employaient que ceux des communes environnantes. Sibylle était chargé de ces détails, il indiquait les vrais nécessiteux, il les amenait quelquefois. La comtesse tenait ses assises de bienfaisance dans la grande antichambre qui donnait sur le perron, une belle salle dallée en marbre blanc et rouge, ornée d'un beau poêle en faïence, garnie de longues banquettes couvertes en velours rouge. Ce fut là qu'un matin avant la moisson, Sibylle amena Catherine Tonsard, qui avait à faire une confession terrible pour une pauvre fille. Elle se tenait dans une attitude de criminelle. Elle raconta l'embarras dans lequel elle était à sa grand-mère. Sa mère la chasserait. Son père, un homme d'honneur, la tuerait. Si elle avait seulement 1000 francs, elle serait épousée par un ouvrier nommé Gaudin, qui ferait comme son père. Il achèterait un mauvais terrain et s'y bâtirait une chaumière. C'était attendrissant. La comtesse promit de consacrer à ce mariage la somme nécessaire à satisfaire quelques fantaisies. Le mariage heureux de Michaud, celui de Groison, était fait pour l'encourager. Puis cette noce, ce mariage, encouragerait les gens du pays à se bien conduire. Le mariage de Catherine Tonsard et de Gaudin fut arrangé. Une autre fois, une vieille horrible femme, la mère de Bonnebo, qui demeurait dans une masure, entre la porte de couche et le village, rapportait une charge de fil. « Madame la comtesse a fait des merveilles, » disait Sibylle. « Cette femme-là vous causait bien du dégât dans vos bois, mais aujourd'hui, comment irait-elle ? Elle file du matin au soir. » Le pays était calme. Groison faisait des rapports satisfaisants, les délits semblaient vouloir cesser. Les gardes se plaignaient cependant de trouver beaucoup de branches coupées à la serpette au fond des taillis, dans l'intention évidente de se préparer du bois pour l'hiver. Et ils guettaient les auteurs de ces délits sans avoir pu les prendre. Le comte, aidé par Groison, n'avait donné les certificats d'indigence qu'aux 30 ou 40 pauvres réels de la commune. Mais les maires des communes environnantes avaient été moins difficiles. Plus le comte s'était montré clément dans l'affaire de couche, plus il avait résolu d'être sévère à l'occasion du glanage, qui était dégénéré en volerie. Il ne s'occupait point de ces 3 fermes à fermer. Il ne s'agissait que de ces métairies à moitié, qui étaient assez nombreuses. Il en avait 6, de chacune 200 arpents. Il avait publié que, sous peine de procès-verbal et des amendes que prononcerait le tribunal de paix, il était défendu d'entrer dans les champs avant l'enlèvement des gerbes. Son ordonnance ne concernait que lui dans sa commune. Rigoux connaissait le pays. Il avait loué ses terres labourables par portions à des gens qui savaient enlever leurs récoltes, et par petits baux, il se faisait payer en grains. Le glanage ne l'atteignait point. Les autres propriétaires étaient paysans, et entre eux, ils ne se mangeaient point. Le comte avait ordonné à Sibylle de s'arranger avec ses métayers pour couper sur les terres de chaque ferme, l'une après l'autre, en faisant repasser tous les moissonneurs à chacun de ses fermiers, au lieu de les disséminer, ce qui empêchait la surveillance.
Le comte alla lui-même avec Michaud examiner comment se passeraient les choses. Groison, qui avait suggéré cette mesure, devait assister à toutes les prises de possession des champs du riche propriétaire par les indigents. Les gens des villes n'imagineraient jamais ce qu'est le glanage pour les gens de la campagne. Leur passion est inexplicable, car il y a des femmes qui abandonnent des travaux bien rétribués pour aller glaner. Le blé qu'elles trouvent ainsi leur semble meilleur. Il y a, dans cette provision ainsi faite, et qui tient à leur nourriture la plus substantielle, un attrait inouï. Les mères emmènent leurs petits-enfants, leurs filles, leurs garçons, les vieillards, et naturellement ceux qui ont du bien affectent la misère. On met, pour glaner, ses haillons. Le comte et Michaud, à cheval, assistèrent à la première entrée de ce monde dans les premiers champs de la première métairie. Il était 10 heures du matin, le mois d'août était chaud, le ciel était sans nuages, bleu comme une pervenche. La terre brûlait, les bois flambaient, les moissonneurs travaillaient à la face cuite par la réverbération des rayons sur une terre endurcie et sonore. Tous muets, la chemise mouillée, buvant de l'eau contenue dans ces cruches de grès rondes comme un pain, garnies de 2 anses et d'un entonnoir grossier bouché par un bout de saule. Au bout des champs moissonnés sur lesquels étaient les charrettes où s'empilaient les gerbes, il y avait une centaine de créatures qui, certes, laissaient bien loin les plus hideuses conceptions que les pinceaux de Murillo, de Teniers, les plus hardis en ce genre, et les figures de Callot, ce prince de la fantaisie des misères, aient réalisées. Leurs haillons si cruellement déchiquetés, leurs jambes de bronze, leurs têtes pelées, leurs couleurs si curieusement dégradées, leurs déchirures humides de graisse, leurs reprises, leurs taches, les décolorations des étoffes, les trames mises à jour, enfin, leur idéal du matériel des misères était dépassé. De même que les expressions avides, inquiètes, hébétées, idiotes, sauvages de ces figures, avaient sur leurs immortelles compositions l'avantage éternel que conserve la nature sur l'art. Il y avait des vieilles au cou de dindon, à l'œil chauve et rouge, qui tendaient la tête comme des chiens d'arrêt devant la perdrix. Des enfants silencieux comme des soldats sous les armes, des petites filles qui trépignaient comme des animaux attendant leur pâture. Les caractères de l'enfance et de la vieillesse étaient opprimés sous une féroce convoitise, celle du bien d'autrui, qui devenait le leur par abus. Tous ses yeux étaient ardents, les gestes menaçaient, et tous gardaient le silence en présence du comte, du garde champêtre et du garde général. La grande propriété, les fermiers, les travailleurs et les pauvres, toute la campagne était en présence. La question sociale se dessinait nettement, car la faim avait convoqué ces figures provocantes. Le soleil mettait en relief tous ses traits durs, les creux des visages. Il brûlait les pieds nus et couverts de poussière. Il y avait des enfants sans chemise, à peine couverts d'une blouse déchirée, les cheveux blonds bouclés pleins de paille et de foin, de brins de bois. Quelques femmes en tenaient par la main de tout petits qui marchaient de la veille et qu'on allait laisser rouler dans quelques sillons. Ce tableau sombre était déchirant pour un vieux soldat qui avait le cœur bon. Le général dit à Michaud, « Ça me fait mal à voir. Il faut connaître l'importance de ces mesures pour y persister. Si chaque propriétaire vous imitait, demeurait sur ses terres et y faisait le bien que vous faites sur les vôtres, il n'y aurait pas, je ne dis pas de pauvres car il y en aura toujours, mais il n'existerait pas un être qui ne pût vivre de son travail. » Les maires de Couches, de Cerneux et de Soulanges nous ont envoyé leurs pauvres, dit Groison qui avait vérifié les certificats. Ça ne se devrait pas. Non, mais nos pauvres iront sur ces communes-là, dit le comte. C'est assez pour cette fois d'obtenir que l'on ne prenne pas à même les gerbes. Il faut aller pas à pas, dit-il en partant. L'avez-vous entendu? Dit la vieille Tonsard à la vieille Bonnet-Beau.
car le dernier mot du comte avait été prononcé d'un ton moins bas que le reste, et il tomba dans l'oreille d'une de ces deux vieilles qui étaient postées dans le chemin qui longeait le champ.
« Oui, ça n'est pas tout. Aujourd'hui une dent, demain une oreille. S'il pouvait trouver une sauce pour manger nos fraissures comme celle des veaux, il mangerait du chrétien !»
dit la vieille Bonnet-Beau, qui montra son profil menaçant au comte quand il passa, lui lança un regard mielleux et lui fit la révérence.
« Vous glanez donc aussi, vous à qui ma femme fait cependant gagner bien de l'argent ?»«
Eh, mon cher monsieur, que Dieu vous conserve en bonne santé, mais voyez-vous, mon gars me mange tout, et je somme forcé de cacher ce peu de blé pour avoir du pain l'hiver. J'en ramassons encore quelque peu, ça aide !»
Le glanage donna peu de choses au glaneur. En se sentant appuyé, les fermiers et les métayers firent bien scier leur récolte, veillèrent à la mise en gerbe et à l'enlèvement. Habitués à trouver dans leur glane une certaine quantité de blé et ne l'ayant point, les faux comme les vrais indigents, qui avaient oublié le pardon de couche, éprouvèrent un mécontentement sourd qui fut envenimé par les Tonsards, par Courtecuisse, par Bonnet-Beau, Vaudoyer, Gaudin et leurs adhérents dans les scènes de cabaret. Ce fut pis encore après la vendange, car le halbotage ne commença qu'après les vignes vendangées et visitées par Sibylle avec une rigueur remarquable. Cette exécution exaspéra les esprits au dernier point. Mais il existe un si grand espace entre la classe qui se courrouçait et celle qui était menacée, que les paroles y meurent. On ne s'aperçoit de ce qui s'y passe que par les faits. Elles travaillent à la manière des taupes. Au château des Aigues, le comte, endormi par Sibylle, rassuré par Michaud, s'applaudissait de sa fermeté, remerciait sa femme d'avoir contribué par sa bienfaisance à l'immense résultat de leur tranquillité. La question de la vente des bois, le général se réservait de la résoudre à Paris, en s'entendant avec des marchands. Il n'avait aucune idée de la manière dont se fait ce commerce, et quelle influence avait Gobertin sur le cours de l'Yonne qui approvisionne Paris en grande partie.